Je me souviens comme si c'était hier de la façon de se comporter de plusieurs personnes la première fois qu'elles ont été en présence de croyants. Elles étaient venues pour un événement particulier, un film, une soirée de Noël ou de marionnettes. L'atmosphère était très sympathique et chacune d'elles fut très bien accueillie. Et pourtant, on pouvait lire sur son visage combien elle était mal à l'aise, gênée et visiblement se sentait comme un poisson hors de l'eau. Aujourd'hui, ces mêmes individus sont épanouis et occupent même une fonction de responsabilité dans une église. Ont-ils simplement été embrigadés, manipulés? Sont-ils contraints de participer aux activités d'une assemblée chrétienne? Ou bien y a-t-il eu une sorte de déclic dans le plus profond de leur être? Il n'y a rien, absolument rien, qui empêcherait chacun d'eux de quitter cette église. D'ailleurs, il n'est pas rare que quelqu'un participe pendant un temps à la vie d'une assemblée, puis s'en aille, soit dans une autre église, soit retourne dans le monde. C'est comme ça. Pour ceux qui décident de rester parmi les croyants et de s'engager, cette décision leur coûte cher en temps et même en argent, et souvent il leur faut soutenir les faibles, et parfois ces derniers sont lourds à porter. Alors pourquoi donc restent-ils dans leur assemblée? Tout simplement parce que pour eux, l'Église est comme une famille et ils aiment chaque croyant et se sentent aimés en retour. Certains pourraient penser qu'on peut aussi trouver ces caractéristiques dans une société de boules, un groupe sportif, un cercle d'amis, de lecture ou de bien-pensants. Eh bien, pas vraiment, parce qu'il arrive souvent que les membres de ces clubs soient plus ou moins jaloux les uns des autres, tirent la couverture à eux et se portent des coups fourrés. Ce sont peut-être les francs-maçons qui se rapprochent le plus des croyants. À l'origine, cette confrérie n'avait rien d'occulte ou de mystérieux comme aujourd'hui. C'était un réseau d'artisans qui s'était constitué parce qu'ils pouvaient se faire mutuellement confiance. Ils se disent frères les uns des autres, mais leur objectif est de faire des affaires et de gagner de l'argent honnêtement, sans se faire voler, ce qui est un but honorable, mais humaniste. Les francs-maçons étaient liés entre eux par l'intérêt personnel et la confiance réciproque, ce qui n'est déjà pas si mal. Cependant, on ne peut pas dire qu'ils s'aimaient entre eux. Au fil des années, j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer des gens que je n'avais jamais vus et qui ne me connaissaient pas, mais qui, comme moi, avaient fait confiance à Jésus-Christ, et c'est ce qui nous rapprochait sans que nous fassions le moindre effort. Et puis ces gens s'intéressaient véritablement à ma famille et moi à eux. Nous n'avions pas la moindre méfiance, mais une appréciation réciproque, spontanée. Notre communion d'esprit était telle que je peux vraiment dire que nous avions de l'amour les uns pour les autres. Je continue à lire dans le chapitre 3 de la première épître de Jean. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 14. Ce verset, comme beaucoup d'autres, affirme qu'il est tout à fait possible à quelqu'un de savoir si oui ou non il possède la vie éternelle, ce qui, vous en conviendrez, est essentiel pour avoir la paix de l'âme. L'expression « passer de la mort à la vie » a été prononcée par Jésus et nous est rapportée par Jean dans son évangile. À cette occasion, le Seigneur a dit aux chefs juifs « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Jean dit que la preuve que quelqu'un possède la vie éternelle est qu'il a de l'amour pour les autres croyants. Plus loin, il écrit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Dieu Personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Jean rappelle également à ses lecteurs que celui qui n'a pas d'amour envers les croyants est comme mort, ce qui sous-entend qu'il ne semble pas être passé de la mort à la vie. Je continue le texte. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Verset 15. Dans son style habituel franc et massif, cette affirmation sans nuance et menaçante de Jean paraît exagérée. Cependant, elle correspond bien à l'enseignement de Jésus. Dans le célèbre sermon sur la montagne, il a dit « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit « imbécile » passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » La haine est l'équivalent moral et spirituel du meurtre, tout comme le regard chargé de convoitise porté sur une femme est l'équivalent de l'adultère. La question que pose ce verset est de savoir à qui Jean s'adresse. Quiconque a de la haine pour son frère. Le pronom possessif « son frère » semble indiquer qu'il parle d'un croyant. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le participe, traduit par « demeurant », est crucial. En effet, Jean ne dit pas qu'il n'est pas possible à un croyant de haïr son frère ou même de tuer. C'est malheureusement possible. Le roi David a fait assassiner le mari gênant de sa maîtresse. Et l'apôtre Pierre déclare à des croyants qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait. Selon Jean, le croyant qui est rempli de haine ou qui a des pensées de meurtre n'est plus en communion avec Dieu et dans son expérience, il vit comme un non-croyant dans la mort et dans la même sphère que le monde. C'est aussi ce que l'apôtre Paul dit quand il écrit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ce principe s'applique à tout être humain. Si c'est un croyant, il court le risque de s'autodétruire ou d'être puni par Dieu et même de perdre sa vie physique. Quand Jean Calvin a dit « Nous souhaitons la perte de celui que nous haïssons », il parlait par expérience, parce que lui-même n'était pas un tendre, mais un homme de son temps. Quand il devint le maître de Genève, il l'a dirigé avec une poigne de fer et il donnait à ses ennemis le choix entre quitter la ville et le bûcher. Le mot pour meurtrier signifie tueur d'hommes et n'apparaît que sous la plume de Jean. Ici et dans son évangile, quand il rapporte que Jésus a dit aux chefs religieux « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. » Tous les croyants possèdent deux natures, l'ancienne et la nouvelle, et elles sont sans cesse en lutte l'une contre l'autre. Quelquefois, souvent même, je perds pied et Dieu disparaît de mon horizon. Alors, j'essaye de me dépatouiller tout seul jusqu'à ce que je reprenne conscience que je suis en train de sombrer. Enfin, je me rappelle de mon Dieu, je l'invoque et il me ramène sur la berge. Puis le cycle recommence. Je suis un peu comme l'apôtre Pierre. Quand les apôtres ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils furent terrorisés. Mais Jésus leur dit aussitôt « « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Maintenant, ceux qui ont toujours la haine au ventre contre quelqu'un ou qui nourrissent régulièrement des pensées meurtrières dans leur cœur prouvent qu'ils n'ont jamais été des enfants de Dieu, mais qu'ils sont du diable. Et à moins qu'ils ne se repentent et acceptent Jésus comme leur sauveur, le royaume des cieux leur sera fermé à tout jamais. C'est en tout cas ce qu'affirme d'une manière brutale la fin du livre de l'Apocalypse dans un passage à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Je lis un extrait. « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Je continue le texte de 1 Jean. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Verset 16. Jean souligne que Jésus a donné sa vie, littéralement déposé sa vie, de son plein gré. Caïn et Jésus sont deux personnages aux antipodes l'un de l'autre. Alors que le premier représente la haine, le second symbolise l'amour. Caïn a pris la vie d'un autre. Jésus a donné la sienne. Muni d'un tel modèle, tout croyant devrait être prêt à faire un sacrifice semblable pour ses frères. Je ne sais pas vous, mais moi, je crois que j'hésiterais. Connaissez-vous quelqu'un qui donnerait sa vie à votre place? Tant que je ne suis pas prêt à sacrifier ma vie pour un frère, mon amour pour lui laisse à désirer. Pendant les dernières guerres, beaucoup de soldats accomplirent des actions héroïques jusqu'à donner volontairement leur vie pour sauver celle de leurs camarades ou pour enrayer l'avance ennemie. De tels faits d'armes sont plus qu'honorables et généralement motivés par le sens du devoir. Le 30 mars 1981, quelqu'un tenta de tuer le président Reagan. Il fut blessé, mais survécut grâce à l'un de ses gardes qui fit rempart avec son propre corps. C'était très honorable de la part de ce garde du corps, mais il n'a fait que son devoir pour lequel il était payé. De nos jours, des extrémistes de tous bords rêvent de devenir kamikazes. Ils s'enroulent d'explosifs et se transforment en bombes humaines afin de tuer un maximum de gens. Il y a certes parmi eux des pauvres êtres, hommes, femmes ou enfants, qui ont été manipulés, voire forcés à se faire exploser ainsi. Cependant, la majorité de ces bombes humaines agissent pour leur propre gratification, par arrogance, et pour assouvir une haine quelconque, ou pour gagner un paradis illusoire. Ces actes ignobles sont à l'opposé du don de soi par amour pour son prochain. Dans le Nouveau Testament, il est question d'un personnage appelé Épaphrodite qui n'apparaît que dans l'épître de Paul aux Philippiens. Son nom signifie « préféré d'Aphrodite », cette dernière étant la déesse du jeu et de l'amour sensuel. Les joueurs criaient souvent « Épaphrodite !» en lançant les dés, espérant ainsi obtenir sa faveur. Mais Épaphrodite, le compagnon d'œuvre et de combat de Paul, n'avait rien de commun avec les joueurs de dés. L'apôtre écrit de lui « C'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouvez me rendre vous-même. » l'apôtre Paul était prêt à sacrifier jusqu'à son âme pour les Israélites non-croyants. Il écrit « Oui, je demanderais à Dieu d'être maudit et séparé du Christ pour le bien de mes frères, nés du même peuple que moi. » Je continue le texte de 1 Jean. « Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ?» Verset 17. Le mot pour entrailles signifie un intérêt affectif profond et sincère, une empathie chaleureuse. Il est très rare que l'occasion de sacrifier sa vie pour un frère se présente. Par contre, le même amour-sacrifice qui se donne à l'autre peut s'exprimer d'une manière différente et très concrètement dans les situations de la vie courante. En effet, l'amour dont il est question dans le Nouveau Testament n'est pas un sentiment, mais des actes. L'apôtre Jacques aussi a beaucoup à dire sur ce sujet. Il écrit « Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? » Fin de citation. Il est tragique pour un croyant de posséder les biens de ce monde et d'en profiter seul sans le partager avec des croyants nécessiteux, ou bien de donner seulement quelques miettes par acquis de conscience ou pour être bien considéré. Que dira-t-il au Seigneur le jour où il comparaîtra devant lui ? Les Écritures ont beaucoup à dire concernant les biens de ce monde. Même Jésus faisait très souvent référence à l'argent, surtout avec des paraboles comme les trois qui se suivent dans l'Évangile selon Luc. Dans la première, le fils prodigue gaspille l'argent de son père. Dans la seconde, un intendant malhonnête gaspille l'argent de son maître. Et dans la troisième, le mauvais riche gaspille son propre argent en le dépensant sur lui-même. Suite à l'histoire de l'intendant infidèle, Jésus a fait le commentaire suivant. « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera ce qui est véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon est un mot araméen qui signifie les possessions matérielles ou l'argent. Jésus donne trois enseignements sur Mammon. Premièrement, il dit « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le problème des possessions matérielles est qu'elles prennent facilement les caractéristiques d'une force personnifiée qui cherche à nous contrôler. Les richesses sont nécessaires pour vivre et peuvent être utilisées au service de Dieu, mais elles portent en elles le potentiel de corruption. La possibilité qu'elles viennent à nous asservir est omniprésente. Pour cette raison, Jésus les appelle des richesses injustes. Mammon essaye toujours d'usurper la place de Dieu dans nos vies, or nul ne saurait servir Dieu et l'argent. Deuxièmement, Jésus demande « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, « qui vous confiera ce qui est véritable ?» C'est-à-dire la vérité de Dieu concernant cette vie et celle à venir, les valeurs éternelles, l'infinie grandeur de la personne de Jésus et la signification de son sacrifice. Troisièmement, Jésus demande « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Les Écritures ne s'opposent pas aux possessions matérielles, mais condamnent ceux qui refusent d'accepter que toutes les richesses et tout ce qui existe appartiennent à Dieu parce qu'il est le Créateur. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent, écrit David. Ce principe de base est absent de la pensée capitaliste moderne. Ma bagnole, mon stylo et mon ordinateur appartiennent à Dieu, et je n'en suis que le gérant. Si tout appartient à Dieu, y a-t-il quoi que ce soit qui m'appartienne en propre? Oui, la petite portion de la vérité de Dieu que je comprends et que j'essaye de mettre en pratique m'appartient et je l'emmènerai avec moi dans l'éternité. Dieu examine son peuple pour voir qui est fidèle avec les possessions matérielles afin de lui révéler quelque chose de ce que l'apôtre Paul appelle les profondeurs de Dieu. Le potentiel de transformation d'une telle vision du monde et de la vie est prodigieux.